Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Nenio et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même, et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous aider à progresser via l'aide de ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Passons maintenant à mon invité du jour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le Gratin Céline Ansker, qui est directrice transformation marketing et digital et membre du COMEX de la Banque de Détail en France, de BNP Paribas, un sacré titre. Vous pourrez retrouver Céline simplement via son compte LinkedIn, Céline Ansker, où elle est active, et que je vous mets dans les notes de l'épisode. Les femmes dans le milieu bancaire ne sont pas légion, on le sait, et il était important pour moi de mettre enfin en avant dans le Gratin une femme membre du COMEX d'une banque comme BNP Paribas en France, et ce d'autant plus que la période que nous venons de vivre avec la crise du Covid a donné une dimension encore plus intéressante à ce secteur d'activité. Nous avons donc commencé avec Céline à discuter d'emblée de la crise, des aides qu'une banque comme la BNP avait pu apporter aux Français, mais aussi de l'envers du décor, et c'est ce qui m'intéressait. Parce que au-delà des dispositifs mis en place, comment ceux-ci ont été implémentés? Comment faire travailler des équipes sur ces sujets urgents alors même qu'elles étaient confinées? Comment instaurer un élan de solidarité dans une structure d'une telle taille? Comment rester à l'écoute de l'humain quand on ne voit plus en face à face personne? Autant de questions passionnantes auxquelles Céline a non seulement répondu dans l'épisode, mais contribué à façonner sur le terrain. Nous avons ensuite abordé son parcours, de la jeune fille sage née à Dijon, à sa carrière fulgurante dans le secteur du conseil puis de la banque, avec toujours une passion renouvelée pour l'écoute du client. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode jusqu'à la fin, parce que lors de mes dernières questions, Céline s'est vraiment confiée avec beaucoup de vulnérabilité sur des moments de difficulté personnelle qui avaient forgé son caractère. Des enseignements sur la prise de recul qui, je suis sûre, parleront à de nombreux d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Céline Ansker. Bonjour Céline et puis bienvenue surtout sur le Gratin, je suis ravie de vous accueillir.
Bonjour Pauline, ravie également.
Céline, j'ai réfléchi au meilleur moyen de commencer. Je sais pas si c'est le meilleur, mais je trouvais qu'un bon moyen de commencer, ça serait de plonger directement dans le vif du sujet. On sort à peine de la crise du Covid, avec une brutalité évidemment sans précédent. Et j'ai, pour ma part, avec le Gratin, entendu de très, très nombreux entrepreneurs, et d'ailleurs pas uniquement des entrepreneurs, être paniqués par la crise. On sait que la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre quand on entreprend. Or là, avec parfois moins 80% de chiffre d'affaires et des loyers qui continuent à tomber, la gestion du cash, bah, c'est vraiment devenu un énorme problème pour beaucoup. Et donc, si ça vous va, je voulais commencer par parler de comment vous, banquier, je sais que ce n'est pas uniquement ce que vous faites, vous avez une vie à côté, mais malgré tout, comment vous, banquier, et notamment au titre de la BNP, eh bien, vous aviez vécu cette crise. Donc, un peu passé de l'autre côté de la barrière, si vous voulez, et comprendre comment vous avez du coup pu vous organiser pour réagir au plus vite. Et du coup, ma première question, c'est tout simplement, quel est le rôle pour vous d'une banque dans une période comme celle que nous venons de vivre?
Oui, alors Pauline, vous avez raison, vous parlez d'une période absolument exceptionnelle. Je crois d'ailleurs qu'on n'est pas encore tout à fait au passé, parce qu'on est encore dans un début de déconfinement, et notamment pour les Français, pour les entrepreneurs, pour toute la société, les situations sont encore assez hétérogènes et parfois encore très difficiles. Alors, vous me posez la question pour nous, la banque. Je crois qu'en fait, dans cette crise, ce qui est vraiment une conviction forte et que j'ai encore plus renforcée en sortie presque de crise, c'est que En fait, nous sommes un service essentiel, essentiel pour la société et essentiel pour le fonctionnement de l'économie et essentiel parce que notre rôle, il était vraiment, il le sera encore plus demain, d'être aux côtés des clients, de nos clients, de toutes les typologies de clients dans ce moment qui n'est pas que simple. On a à cœur d'accompagner les clients dans les moments de vie. Je crois que là, c'était un moment de vie parfois très difficile, notamment vous parliez des entrepreneurs, des entreprises. Et je crois qu'on a à cœur d'être aux côtés de nos clients avec l'ensemble des conseillers, des chargés de clientèle, des chargés d'affaires en France. Et je crois que ça a été cette conviction que nous avons eue chevillée au corps durant toutes ces, c'est déjà 12 semaines hein, depuis mi-mars. Et donc notre objectif c'était parce que finalement il y a eu plusieurs phases peut-être hein, dans ce Covid. Notre objectif c'était bien sûr d'être extrêmement réactif, très à l'écoute des clients dans ces différentes phases. Et je crois que la première phase qu'on a tous vécue, c'était la phase de l'urgence, c'était mars, comment on va s'organiser, comment on va gérer la santé de nos collaborateurs et puis évidemment des clients, comment on va mettre en place toutes les mesures de sécurité dans nos agences, pour les collaborateurs qui étaient sur site, comment on va s'organiser très rapidement pour être très réactif dans les premières priorités, les premières sollicitations des clients. Vous savez, on aura peut-être l'occasion d'y revenir et puis après d'évoquer toutes les mesures qu'on a mises en place pour les professionnels, les entrepreneurs, les TPE, mais moi j'ai eu tout au long de cette crise, et c'est encore quelque chose de... Je l'appelle vraiment très souvent. J'ai un marqueur, un baromètre en fait, qui est mon beau-frère, parce que mon beau-frère est boulanger. Alors boulanger, il y a 5 boutiques, donc c'est déjà une petite entreprise. Hein, et en fait, il a vécu exactement ce que je vous dis et que moi j'ai vécu du côté de la banque, c'est-à-dire les premiers jours, c'est comment j'ouvre les boutiques, comment je vais faire en sorte de vendre du pain, comment je vais faire en sorte de rassurer des ouvriers dans la ville, les vendeuses, sécurisées avec les masques, les gants, etc. Et gérer aussi les comportements très inhabituels des clients qui venaient chercher 15 baguettes un jour, plus rien le lendemain. Donc ça, c'était cette première phase, on va dire. Et j'ai été, je crois, dans cette période, c'était mi-mars, on va dire début avril, déjà 15 jours, 10 jours. Moi, j'ai été vraiment de l'intérieur de la banque de détail en France, chez Banque Paribas, j'ai été bluffée. Vraiment bluffé par l'engagement des conseillers, des chargés d'affaires, des collaborateurs dans toutes les directions, dans tous les départements, qui se pliaient en quatre pour justement solutionner et apporter les bons messages aux clients. Nous sommes accessibles. Comment vous pouvez nous joindre? Sur quel canal? Comment envoyer des informations à distance hein, dans les équipes marketing digital? Vous envoyez les informations par mail, vous pouvez nous joindre sur le site web, sur l'application, et ça dans une rapidité extrêmement forte. Et puis après, effectivement, on est rentré sur cette phase d'apporter évidemment des solutions sur mesure aux différentes problématiques des clients. J'ai bien sûr en tête la personnalisation obligatoire, le dialogue avec les clients professionnels, entrepreneurs, pour étudier toutes les situations, parfois très sensibles, très critiques. Alors, on a déjà eu une période où on a énormément travaillé en sur-mesure les suspensions de crédit. Vous voyez, on en a opéré sur cette cible de clientèle, près de 70 000, je crois, sur la période. Et puis, c'est ensuite construit en un temps record le PGE. Vous avez, je crois, pas mal... échanger sur le PGE avec les entrepreneurs et donc chez BNP Paribas on a eu à cœur de mettre en place ce PGE très rapidement, de former tout.
Oui, c'est ça qui est assez fou quand on y pense. Exactement. La rapidité avec laquelle vous avez été quand même capable de mettre en place ces nouvelles pratiques qui sont arrivées un peu du jour au lendemain quand même.
Oui, alors vous voyez, nous on parle d'à peu près 60 000 demandes de PGE hein, à fin mai, vous voyez, dans les ordres de grandeur. En fait, on a formé en 48 heures tous nos conseillers pour qu'ils puissent justement accompagner les clients qui souhaitaient activer le PGE très rapidement, souhaitaient adapter leur situation. Après, ce qu'on voit moins quand on est client, c'est l'envers du décor, c'est les équipes marketing qui ont travaillé avec les équipes risque, IT, informatique, enfin, remarquables, les équipes opérations qui se sont mis à distance, hein, parce qu'on était déjà tous confinés, qui se sont mis autour de, du micro, entre guillemets, pour justement travailler la fluidité du process, faire en sorte qu'on tienne des délais très courts, qu'on puisse débloquer les fonds et que la demande de financement de chaque client se fasse le mieux possible. Donc, je crois que ça a été vraiment quelque chose de très remarquable et ce qui était vraiment indispensable pour nous, c'était de répondre à cette demande des clients et être là, coûte que coûte, à leur côté.
Justement, en fait, Céline, ce que je trouve intéressant, c'est de parler de cet envers du décor, parce que effectivement, on a été très focalisé, je trouve, sur les entrepreneurs, et c'est bien parce qu'ils étaient en vraie souffrance. Mais concrètement, quand on est une banque comme la BNP avec des, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais des dizaines de milliers d'employés, et notamment beaucoup de personnes sur le terrain qui doivent changer très rapidement quand il y a un paradigme comme ça qui évolue aussi vite, en interne, concrètement, comment se passe ce type de changement? Comment est-ce que vous, notamment au sein de l'équipe de marketing, vous communiquez les messages, peut-être j'imagine en coordination avec les équipes terrain, pour faire comprendre quels sont les leviers à disposition des personnels sur place, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer. Enfin, concrètement, j'imagine que ça va être très difficile de me répondre simplement, mais quel a été le plan d'action pour déployer à si grande échelle finalement un changement d'une telle ampleur?
Ouais. Alors effectivement, on s'est très très vite organisé. Alors au niveau déjà du comité exécutif, avec des points quotidiens avec l'ensemble des équipes des régions. Et puis moi, vous voyez, dans les équipes marketing et digital, je relayais ça avec ce que j'avais appelé un flash d'équipe tous les jours pour que tout le monde soit au plus près des décisions, des avancées que nous avions à opérer. Toutes les équipes, de fait, étaient dans ce rythme très soutenu d'informations, de partage avec leurs collaborateurs et puis surtout au plus près de ce qu'il fallait que nous opérions, mettre en place des messages. On parlait tout à l'heure de messages d'information sur le fait que nous étions restés joignables. Pour les régions, faire en sorte que presque, puisqu'on a été autour de 85-90% des agences restent ouvertes, hein, avec des plages horaires et des dispositifs adaptés. Donc, assurer cette continuité de service coûte que coûte. Et puis, surtout aussi, dans ces rituels quotidiens, s'assurer d'embarquer tout le monde, que personne ne soit isolé.
C'est ça.
Faire en sorte de commencer à créer des nouveaux rituels d'équipe et puis faire attention à chacun, parce que certains étaient absents parce que malades, certains étaient absents avec la famille à la maison et des difficultés à pouvoir se connecter dans ces rituels-là. On avait tout type de situation et c'est aussi l'accompagnement individuel qui était clé dans cette période. Et puis après, je parlais tout à l'heure des équipes informatiques. Je crois qu'on a eu une mobilisation remarquable des équipes informatiques de l'ensemble du groupe, notamment pour accompagner le travail à distance, puisque on parle de mesures pour accompagner nos clients, mais déjà pouvoir tous à distance se connecter, accéder à notre poste de travail, avoir le bon niveau de connexion, etc. Ça, c'est un travail remarquable des premières semaines qui a permis à l'ensemble des collaborateurs de rester justement connectés.
Et je me permets en plus d'ajouter, ça peut paraître anodin quand on y pense, mais quand on est une entreprise avec autant de collaborateurs et avec des enjeux de sécurité tels, le travail à distance, je peux imaginer que c'est tout sauf évident, parce que moi, en tant qu'entrepreneur d'une entreprise d'une trentaine de personnes, déjà, c'est pas facile à gérer, il y a des mots de passe dans tous les sens, etc. Mais quand on a des pare-feux, etc., c'est vrai qu'on peut imaginer que le travail de l'équipe informatique, ça a été quand même une vraie gageure. Donc, effectivement, il faut le rappeler. Je voulais revenir sur le point du rituel dont vous parliez, ça m'intéresse beaucoup ce genre de choses, et notamment si vous aviez des exemples un peu précis ou concrets, notamment pour aider éventuellement des plus petites structures ou des structures de taille importante aussi, pour se dire, ok, concrètement, quand on doit gérer un changement, et vous, c'est quand même le cœur de votre carrière, j'ai l'impression, la gestion du changement, comment est-ce qu'on fait accepter ce changement? Et puis, comment est-ce que justement on crée ces fameux rituels? Est-ce que c'est le leadership qui doit en parler? Est-ce que ça passe par un travail justement très, très individuel d'accompagnement? Comment est-ce que ça se passe? Quelle est votre vision là-dessus, Céline?
Je crois que les rituels au démarrage se sont installés par avec ce sentiment d'urgence et cette nécessité de rester tous en contact et de faire avancer un certain nombre de dispositifs qu'il fallait absolument que nous construisions, que nous mettions en place pour nos clients. On a parlé des clientèles professionnelles, entrepreneurs, mais les clientèles particuliers, s'aligner aussi avec tous les dispositifs gouvernementaux qui se mettaient en place. Et donc d'abord, les rituels au démarrage, c'était se parler, avoir l'information, permettre à chacun, chacune de prendre bonne note et puis de trouver sa place pour faire avancer le collectif. Après, on a très vite appuyé le message de solidarité, puisqu'évidemment, les situations individuelles faisaient que ce qui comptait, c'est que certains puissent contribuer à un moment et puis les autres, ça serait plus tard. Mais en tout cas, il fallait que chaque compétence puisse être représentée et à la main de chaque équipe de trouver la bonne personne disponible à tel ou tel moment. Et puis, après, il y a des petites pépites hein, qui émergent. Vous voyez, j'ai un lundi matin, un manager de mon équipe qui me dit « ce serait bien que tu viennes à mon rituel, parce que donc que je vienne, vous voyez, à distance, hein, que tu te connectes à notre rituel du lundi matin. Ouais. » Donc ça, c'était il y a 3 semaines, je crois. Ça faisait déjà 5 semaines qu'on était en confinement. Et donc, moi, je me connecte. Et là, ce manager, il démarre par Barry White à fond.
Génial. Bon,
finalement, ça paraît tout simple. Bon, moi, je ne l'avais pas vraiment mis en place hein, dans mes rituels. Mais alors, quelle pêche
vous avez dû être un peu
pour
étonnée.
Démarrer la semaine, vous voyez. Donc après, on met en place, vous voyez, certaines... On a lancé une newsletter de l'optimisme pour garder le lien dans les équipes marketing et digital. Après, les collaborateurs le lisent quand ils ont le temps. Mais ça permet de tenir ce fil. Hein, et puis, après, évidemment, dans la banque de détails, quelles que soient les équipes, on a vraiment veillé à ce que les managers contactent bien tous les collaborateurs, soient vigilants à ce que personne, justement, ne soit isolé, trop isolé. Dans cette période, parce que c'est juste une période complètement hors norme, finalement.
Complètement, mais je trouve ça, c'est drôle, cet exemple paraît effectivement presque un peu facile, quoi,
oui,
Barry White,
oui.
Mais en même temps, je trouve ça vraiment super de me dire que recréer du lien, surtout à distance, c'est tellement important, c'est tellement difficile que parfois il faut justement en faire un peu 3 tonnes. Et j'imagine que ce manager, en fait, avait un succès de fou et que son équipe devait être encore plus motivée que jamais.
Oui, exactement. Et puis, vous voyez, j'ai une autre illustration. Donc, dans les équipes, toujours marketing, digital, on a travaillé le dispositif de communication. On a mis à jour beaucoup nos applications. On a travaillé tous les process pour accélérer les demandes de report, d'échéance, par exemple, pour des clients particuliers, etc., qui avaient un crédit immobilier. J'ai X illustrations possibles. Et puis, à un moment donné, il y a quelques semaines, parce que je voyais que certains collaborateurs levaient la main en disant « Mais moi, j'aimerais être volontaire pour aider parce que je vois bien que dans telle équipe ou je vois bien que dans telle région, il y a plus de collaborateurs malades qu'ailleurs. Moi, j'aimerais bien aider. » Donc, j'ai lancé l'idée avec mon équipe digitale qu'on crée une plateforme d'entraide pour mettre en relation des collaborateurs volontaires et puis des managers qui auraient ponctuellement des besoins pendant la crise d'appui avec des collaborateurs qui ont fait plein d'autres choses dans leur carrière et qui ont peut-être la compétence pour aider, pour accompagner des clients, pour traiter des dossiers, etc. Donc, de cette idée-là, qui venait en plus du reste, hein, en plus de l'ensemble des dispositifs à mettre en place, est née aussi une énergie collective, l'envie d'aider, de solidarité, qui finalement fait qu'à un moment donné, on reste tous dans une belle dynamique, parce qu'on a aussi cette spontanéité, cette capacité de proposer des choses pour faire avancer le collectif et là pour aider les collaborateurs, les collègues dans d'autres services qui étaient peut-être plus en difficulté.
Ouais, complètement. Je trouve ça très intéressant parce que finalement, les banques, il faut quand même se l'avouer, ont souvent une image un peu averse au risque, un peu froide, notamment chez les entrepreneurs, je dois dire. Et j'ai la sensation qu'avec cette période, je sais pas ce que vous en pensez, Céline, au final, ça a été pour les banques et notamment donc pour la BNP une opportunité quand même de montrer une autre facette, une facette beaucoup plus solidaire justement, et finalement peut-être quelque chose qui est beaucoup plus proche de la mission première d'une banque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des exemples éventuellement.
Je crois que c'était l'opportunité pour notamment les conseillers, les chargés d'affaires, d'avoir un dialogue encore plus étroit avec leurs clients, et notamment parce que ce dialogue, il existe, les contacts, ils sont là, notamment évidemment pour les entreprises, les professionnels, les TPE, mais de créer aussi un partenariat, un dialogue dans la difficulté, dans des moments qui sont plus compliqués que quand on est en train de lancer sa société, quand on est en développement, etc. Donc, ce qui est certain, c'est que la rapidité, la simplicité, le dialogue, ça reste en fait des fondamentaux. Ça reste des fondamentaux que coûte, nous souhaitons apporter à nos clients, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, quelles que soient les clientèles et nous, consommateurs dans la société, ce qu'on souhaite, c'est rapidité, simplicité, autonomie pour beaucoup de choses. Et par contre, plus que jamais, avoir à nos côtés des conseillers qui sont là pour nous informer, nous coacher, nous donner un certain nombre de conseils, d'expertise dans la situation que l'on vit. Donc finalement, cette proximité, elle a été renforcée. C'est un grand paradoxe de dire ça, hein, la proximité malgré la distance. Et en même temps, je crois qu'on a démontré qu'on pouvait avoir une grande proximité sans forcément être justement en face à face. Et donc, ces modèles à distance, cette capacité à être présent, évidemment avec des rendez-vous par téléphone et pas simplement le digital, mais aussi l'accompagnement sur mesure de mon conseiller et en même temps les outils digitaux, c'est je crois un vrai plus et c'est je crois un enseignement pour nos clients de se dire bah, finalement c'est très complémentaire dans le quotidien.
Justement, je voulais vous demander, alors c'est peut-être vraiment difficile de faire des pronostics, mais est-ce que vous pensez, comme beaucoup, que cette crise sans précédent va changer la manière dont notamment à la BNP vous travaillez, c'est-à-dire peut-être avec des exemples une fois de plus, des nouveaux processus que vous avez mis en place, des dispositifs, mais pas que, peut-être au niveau même de l'état d'esprit, au niveau presque de la plateforme de marque quoi, et de la mission. En quoi, si c'est le cas, hein, bien sûr, en quoi cette crise justement apporte des enseignements, comme vous disiez à l'instant?
Alors, je crois que l'enseignement, c'est que cette crise, elle accélère vraiment des tendances que l'on observait déjà et elle accélère des orientations dont nous avions une conviction forte qu'il fallait absolument, coûte que coûte, accélérer sur les solutions digitales, les solutions omnicanales. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ce que je mets derrière omnicanal, c'est un terme un petit peu galvaudé, et la conviction que cette complémentarité que j'évoquais entre le conseiller, le conseil, ce sur-mesure, cet accompagnement, il est extrêmement complémentaire à des usages digitaux et de paiement à distance qui sont exponentiels. Donc voilà, je dirais que c'est plutôt cette accélération-là que l'on observe. Je vous donne un exemple parce qu'évidemment, dans mon métier, je suis certains indicateurs digitaux. Et vous voyez, sur la période, si je compare avant mars et puis mars-avril, j'observe que les clients ont... Il y a plus de 30% de demandes de mots de passe pour accéder à ma banque, mes comptes, au site web, à l'application. Il y a plus de 80% de sollicitations de notre chatbot pour interagir, poser des questions. Oui. On s'enrôle à la clé digitale qui est notre solution d'authentification forte. Donc, on voit bien que l'usage à distance, accéder aux services que la banque me propose en toute autonomie pour suivre mes comptes, pour opérer des paiements, faire un certain nombre d'opérations, je le consomme. Et en même temps, plus de 20% d'utilisation de la messagerie pour contacter mon conseiller, des rendez-vous en ligne à distance et une efficacité pour être en dialogue étroit avec les clients. Vous voyez, donc, c'est une approche très complémentaire qui est...
Oui, c'est intéressant. Et puis, il y a, je pense, aussi une sorte d'effet cliquet, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté, on a compris que finalement, tout pouvait se faire à distance. Moi je le vois à mon échelle avec le podcast. Finalement, avant, je faisais uniquement des podcasts, si vous voulez, en face à face. Bon, bah, avec le confinement, j'ai plus tellement le choix. Et puis, je me rends compte que, bon, ça peut fonctionner quand même de cette manière. En tout cas, ça ouvre de nouvelles perspectives. Et c'est vrai que bah, sur votre secteur en particulier, je peux imaginer qu'il y a énormément d'usagers qui n'auraient jamais pensait utiliser bah voilà, des services à distance qui maintenant sont beaucoup plus ouverts à l'idée de le faire.
Oui, je crois que le Covid, en fait, quelque part, a dopé, je pense, c'est peut-être un petit peu excessif, mais a dopé l'appétence des clients pour les process, notamment dématérialisés. Parce que vous voyez, on a adapté certains process pour justement qu'on puisse adresser dans la messagerie sécurisée un contrat, le faire signer à distance, le client nous le renvoie, là où parfois on avait encore des processus en face à face. On a aussi, quand je parlais d'omnicanal, la volonté évidemment de continuer dans la voie de, ben, finalement, le client, il doit avoir le choix de se dire, je démarre à un moment donné en consultant ma banque, en allant sur l'application. Et puis, si j'ai envie de discuter avec un conseiller de tel ou tel produit, projet de vie, projet d'immobilier, ben je prends rendez-vous. Et puis, en fait, je peux quand même charger mes documents à distance, avoir mon rendez-vous, faire en différé chez moi un certain nombre d'opérations et puis boucler en signature électronique mon contrat, vous voyez. Et donc, cette capacité de passer d'un canal à l'autre parce que moi, client, ça me facilite la vie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut poursuivre coûte que coûte.
Complètement. Non, mais je pense que c'est un bon exemple. Et en fait, même si la BNP est une entreprise de très grande taille, tout ça, évidemment, s'applique même à des toutes petites structures, quoi, au final. Céline, si ça vous va, j'aimerais revenir un petit peu en arrière, même pas mal en arrière maintenant, et qu'on ait vu et on évoque plutôt le début de votre carrière, si ça vous va, et même plus précisément avant votre carrière, j'aimerais parler un tout petit peu de votre enfance. Ne prenez pas peur. Je voulais vous demander, si vous pouvez me dire un petit peu pour qu'on ait un peu de contexte, où est-ce que vous avez grandi, et puis finalement, quelle petite fille vous étiez.
Oui, alors, vaste question, quelle petite fille j'étais. Alors moi, en
surtout
fait,
parler de soi, c'est jamais évident.
Moi, je suis l'aînée de trois filles je suis née à Besançon et j'ai vécu beaucoup en Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'à mes études supérieures. Donc, j'étais dans une famille très, très équilibrée, très aimante, avec un père informaticien dans une banque, une maman qui était secrétaire de direction dans une fabrique de chéquier. Vous allez me dire, finalement, avec le recul, je suis aujourd'hui dans une banque. Toute petite, parce que finalement, comment on arrive aujourd'hui à ce type de métier, de parcours, toute petite, il y a une chose qui me paraît être un driver depuis toute petite, c'est l'envie de collectif, d'être avec les autres, un esprit d'équipe. Alors ça a commencé avec mes petites sœurs, mais après c'est dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de basketball, donc j'ai fait des championnats nationaux une année, j'étais vraiment dans une équipe, j'ai passé mon BAFA, j'ai animé des colonies de vacances, et donc ça c'était
vous étiez vraiment, vous aimez être dans une équipe, vous aimez la construire, vous aimez vraiment en faire partie, être partie intégrante de l'équipe plutôt.
J'aime la construire, j'aime la faire bouger, la dynamiser l'équipe et puis j'ai envie que cette équipe elle soit fédérée et qu'elle avance et qu'elle fasse un peu bouger les lignes, quel que soit finalement le sujet. Donc je crois que c'est un peu ça qui a été mon moteur. Et puis de fil en aiguille, j'avais plutôt le syndrome plus jeune de bon élève à l'école, et puis j'ai fait une classe préparatoire à Dijon à l'époque. J'ai beaucoup travaillé dans cette classe préparatoire, et puis j'ai intégré l'ESSEC avec cette curiosité que j'avais déjà de finalement beaucoup de choses m'intéressaient, je découvrais beaucoup de choses et donc je ne me suis pas spécialisée à l'époque. C'est-à-dire que le milieu de l'entreprise m'était un petit peu évidemment inconnu. Quand on arrive en école de commerce, le marketing c'est très théorique, le contrôle de gestion, la RH, l'informatique, ça reste des... On apprend un petit peu ça. Et puis finalement, comme il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, j'ai plutôt choisi une voie généraliste. J'ai eu, avec le recul, la chance d'aller passer un semestre au Canada, parce que le Canada, à l'époque, j'ai découvert aussi un autre style de systèmes d'apprentissage scolaire et de management déjà, hein, multiculturel, participatif, très différent du modèle entre guillemets à la française. Et puis de fil en aiguille, avec même à l'ESSEC, des professeurs qui m'ont marqué comme Philippe Ayat, qui avait déjà à l'époque inculqué ce goût de l'entrepreneuriat. Vous voyez, je suis arrivée à la fin de mes études avec cette logique. Il y a beaucoup de secteurs qui peuvent m'intéresser. Il y a beaucoup de matières qui sont passionnantes. Quand je dis matières, bah, c'est les opérations, les ventes, le marketing. Et donc, je suis rentrée dans un parcours assez classique en se disant, bah, finalement, je vais continuer d'apprendre. Je suis rentrée dans le conseil comme ça. Et donc, j'ai rejoint Andersen à l'époque. Et là, j'ai connu ma première, entre guillemets, crise de transformation dès l'arrivée, puisqu'il y a eu l'affaire Enron et l'effondrement du cabinet Andersen, je crois, quelques mois après mon arrivée.
Ça a été quelque chose, hein, quand même.
Ouais, voilà, ça a été. Et donc, moi, en fait, j'ai tout de suite été chez des clients. Souvent sur des... pour des missions assez longues. Et ce que je retire, parce que j'ai après passé 9 ans dans le conseil, ce que j'en retire, c'est dans des secteurs très différents, hein, l'automobile, l'énergie, des univers parfois digitaux avant l'heure, notamment dans l'automobile, à mettre en place des progiciels à l'époque, on appelait des progiciels CRM, PRM. et puis, c'est parfois du vocabulaire qui n'existe plus. Et puis, j'ai vécu quand même dans le secteur de l'énergie, la préparation de l'ouverture du marché à la concurrence. Et donc, cette logique de se dire, bah, finalement, on a des usagers et comment on va travailler, revoir tous nos process pour avoir demain des clients. Et donc, cette notion de parcours client, de service, commençait à émerger. En tout cas, je l'ai vraiment vécu, moi, dans cet accompagnement de différentes entreprises, secteurs, et la notion aussi de début du multicanal, c'est-à-dire on a le réseau physique, alors on a la concession automobile, et puis on commence à développer un site web, est-ce que les deux vont se parler, comment on va faire interagir les canaux, et puis on a une plateforme téléphonique. Donc c'était aussi tout ça qui se construisait à l'époque.
Bien sûr. Une question que je voulais vous poser, Céline, que je trouve importante, parce qu'il y a pas mal d'auditeurs, je pense, qui sont dans des périodes de leur vie où ils se posent des questions sur leur évolution professionnelle. Bah, vous, finalement, vous avez commencé par faire un choix d'aller dans le conseil, comme vous le disiez, parce que c'est très polyvalent. Et donc, bah, vous pouvez aller du secteur de l'énergie au secteur de l'automobile, ensuite d'autres métiers, finance, etc., assurance certainement. Et donc, finalement, ce qui est assez super dans ce genre de métier, c'est qu'on apprend énormément. Ce que vous disiez, j'ai l'impression que c'était ce qui vous portait à ce moment-là. Finalement, vous avez à un moment donné fait le choix de quitter le monde du conseil pour vous spécialiser et vous spécialiser dans le secteur bancaire. Une question assez personnelle, je vous avoue, mais est-ce que finalement ça vous a fait peur de fermer des portes et de donc vous spécialiser dans un domaine où finalement vous vous êtes rendu compte qu'au contraire, ça vous apporterait beaucoup et que vous aviez envie de creuser ces sujets? Je vous pose cette question parce que je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu de mal à fermer des portes, et ben vous l'avez fait à un moment donné.
Ouais,
enfin, d'une certaine manière, vous en avez fermé pour en ouvrir, hein, mais voilà, je trouve que c'est important de se poser ces questions, et je pense que votre exemple peut être assez intéressant à cet égard.
Alors, je l'ai pas vraiment vécu comme ça, c'est-à-dire que vous savez, quand vous êtes dans le conseil et que justement vous travaillez avec des clients, des entreprises qui ont une raison d'être, qui ont une âme, un ADN. Finalement, moi, j'ai toujours eu la chance de rester assez longtemps, et en même temps, la chance et la frustration, parce que quand vous restez assez longtemps, vous faites partie de cette entreprise, vous faites partie de cette aventure, vous faites partie de projets, et à un moment donné, votre mission se termine, et donc vous repartez. Et donc, cette frustration de pas faire partie de quelque chose qui permet de faire avancer une entreprise, je reviens sur les missions, la raison d'être, ça a commencé à me titiller, et c'est pour ça que finalement j'ai intégré BNP Paribas en 2008 à l'époque, pour justement prendre part de manière pérenne à quelque chose qu'on construit. J'ai tout de suite complètement adhéré avec la culture de l'entreprise, et j'y ai trouvé cette dynamique de transformation pour faire bouger les choses au service des clients qui me nourrissaient. Et donc finalement, j'ai pas du tout le sentiment, au contraire, vous disiez de fermer des portes, mais plutôt d'être nourrie par des drivers que je retrouvais complètement en posant mes valises dans une entreprise.
Oui, d'accord. Et puis, comme vous le disiez au début, finalement, si le travail en équipe, c'est ça qui vous porte, le fait d'avoir des équipes, on va dire pérennes et que vous pouviez construire avec le temps. J'imagine aussi que ça a dû jouer dans le choix.
Oui, et puis, des univers, vous savez, quand je suis arrivée, donc j'ai rejoint la filiale de crédit à la consommation de BNP à l'époque, et on démarrait une très belle transformation digital avec un modèle à distance, beaucoup de centres de relations clients et finalement cette volonté de l'entreprise de répondre toujours mieux aux clients en modernisant d'un point de vue technologie les outils, en faisant en sorte que les parcours soient les plus fluides possibles, en optimisant les leviers marketing pour solliciter les clients au bon moment, c'est aussi quelque chose de passionnant et que j'ai vraiment trouvé en arrivant chez BNP Paribas et qui aujourd'hui finalement, quand on voit comment ont évolué les pratiques de marché et en tant que consommateur dans le monde, permettent de personnaliser, d'avoir une réponse qui est sur mesure quand on fait appel à sa banque. Et donc, c'est tout ça que j'ai vu commencer à se construire à l'époque quand je suis arrivée. Et puis après, j'ai rejoint la banque de détail il y a 3 ans. Et cet univers de transformation, c'est devenu la nouvelle normalité dans le monde aujourd'hui. Et donc, c'est essentiellement l'humain qui fait bouger les choses. Et puis après, effectivement, c'est la capacité d'avoir des beaux projets, de la transformation, de l'informatique. Mais c'est l'humain qui est au cœur de tout ça.
Justement, si on parle un peu de la transformation, c'est rigolo parce que juste avant de commencer cette interview, j'avais un ami de passage qui me disait qu'il trouvait que le site de la BNP était super, lui-même était client, etc. Enfin bref, une pluie de compliments sur vos services informatiques. Et pour autant, on sait bien que la transformation digitale, surtout pour des entreprises de cette taille, j'imagine que c'est extrêmement complexe. Et donc, vous, c'est quelque chose que vous attaquez depuis un certain nombre d'années maintenant, sans évidemment pouvoir m'expliquer dans les détails comment vous y êtes pris, et puis surtout au niveau de toutes les équipes, tout ce qui a été mis en place. Si on peut essayer de prendre un petit peu de recul, quels sont pour vous les quelques grands facteurs clés de succès qui ont fait que la BNP, que vous avez réussi avec toutes les équipes de la BNP à mettre en place, justement à organiser cette transformation digitale alors même que la marque était extrêmement implantée et puis très implantée sur du retail physique en plus?
Alors, je crois que la première chose, et j'ai pas du tout la vérité, la science infuse, mais je crois, moi, dans ma conviction première, c'est que le groupe a posé une stratégie il y a de nombreuses années maintenant, et coûte que coûte, toutes les filiales, les différentes entités, les différents métiers se sont mis en ordre de marche pour apporter cette dimension technologique encore plus forte au service des clients. Et donc, les investissements qui ont été faits de manière colossale et durable pour justement développer des nouveaux canaux, pour moderniser nos applications, pour faire en sorte que les interfaces digitales soient les plus fluides possibles, c'est ça qui, pas à pas, nous a fait avancer. Alors, évidemment, vous voyez, il y a 3 ans, quand on a lancé le plan de transformation de la banque de détail, on avait, si je prends les illustrations d'usages digitaux, on avait déjà chevillé au corps l'urgence d'apporter un certain nombre de services sur les applications, le mobile notamment, qui n'était pas encore forcément présent, ce qu'on peut faire aujourd'hui en self-care, parce que c'était des irritants forts de nos clients. Et écouter les clients et les avoir en permanence dans le radar par rapport à ce qui manque, par rapport à ce qui se passe pas bien, c'est le nerf de la guerre aussi. Et donc, on a commencé justement de manière très cadencée à livrer ces fonctionnalités, à réadapter nos trajectoires en fonction de ces attentes des clients et des collaborateurs. Et puis ensuite, petit à petit, une fois qu'on a un socle assez stable, on commence à travailler ce qui est plutôt la partie parcours de souscription, ce qui sont les grands parcours clients qui vont de bout en bout, y compris avec des équipes de back-office qui vont instruire les dossiers, etc., doivent être le plus fluide possible, le plus cohérent. Et donc, on a comme ça avancé, pas à pas. On a également beaucoup travaillé, et je pense que c'est quelque chose aussi de très banal à dire, mais on a beaucoup travaillé sur la symétrie clients collaborateurs pour que là aussi les collaborateurs voient leur poste de travail petit à petit modernisé, le plus connecté possible à ce que vivent les clients et à ce que voient les clients. Quand on parle de, par exemple, d'intelligence artificielle qu'on intègre dans certaines solutions, eh bien on a aussi de l'intelligence artificielle qui aide le conseiller au quotidien. Donc vous voyez, cette symétrie là elle a été aussi clé pour
c'est important,
embarquer tout le monde et embarquer tout le monde dans la conviction que finalement une banque c'est une entreprise de technologie au service des clients dans la société d'aujourd'hui et dans l'économie, voyez. Et donc c'est ça qui fait que la route est infinie, on n'est jamais arrivé, on doit toujours progresser, et on doit toujours progresser aussi parce que c'est les clients qui nous le disent. Et donc vous savez, il y a quelques années, alors j'étais encore dans le conseil, on parlait de la voix des clients et on parlait des réclamations qui étaient des pépites. Je ne sais pas si vous avez en tête aussi les nombreux livres sur le sujet et qu'il fallait transformer en or. Aujourd'hui, c'est évidemment pour nous un socle absolument incontournable que de faire en sorte que les clients qui ont réclamé, qui ont eu un moment difficile, on les écoute et surtout prenne ces retours comme des choses très constructives pour optimiser nos process, pour simplifier, pour rendre plus fluide tout ce qui ne l'est pas encore. Donc c'est tout ça qui embarque en fait, vous voyez.
Complètement convaincue, en tout cas, évidemment, de l'écoute client qui est au cœur, évidemment, d'une transformation. Mais ce que je trouve assez fascinant, c'est que, une fois de plus, pour une entreprise de 50, 100, 200, 300 salariés, ça se fait quand on est une entreprise de cette taille, déjà avec énormément de clients très, très divers, malgré tout, même dans une banque de détail. Sans briser des secrets et dévoiler des choses qui ne sont pas dévoilables, mais concrètement, comment vous faites en fait pour étudier vos clients et les comprendre? C'est uniquement de la data sur les sites? Ça passe par des focus groups? Enfin, concrètement, en fait, comment vous récoltez ces données, ces informations?
Oui, on a un ensemble de dispositifs. On a évidemment des avis que vous pouvez rendre quand vous êtes, par exemple, en ligne. Vous pouvez vous exprimer à tout moment. Quand vous avez vécu un moment important, vous êtes entré en relation, vous êtes devenu client, vous avez acheté votre maison, vous avez fait un crédit immobilier, on va là aussi vous interroger sur votre parcours, sur l'effort que vous avez fait dans ce parcours. On pilote évidemment le NPS, on pilote le NPE, donc on pilote finalement la recommandation que les clients feraient de notre banque. On pilote aussi la satisfaction de nos collaborateurs vis-à-vis de BNP Paribas en tant qu'employeur et la recommandation que l'on peut en faire. Et donc, on fait en sorte que nos plans d'action, finalement, soient drivés par ces moteurs-là, par ces indicateurs. Et on a lancé aussi, avec la dynamique du comité de direction depuis 2 ans, une démarche d'optimisation en continu encore plus accélérée pour traiter systématiquement toutes les petits cailloux qu'il y a dans les parcours, dans les process, alléger coûte que coûte et faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Et surtout, quand je dis ça, ça fait un petit peu générique, le conseiller qui accompagne ses clients dans l'agence de Dijon, puisque je suis dijonnaise, il a entre les mains 10 préconisations à faire sur les process, les parcours, ce qu'il vit. Ces 10 préconisations-là, il faut les entendre, il faut les prendre et il faut les optimiser par rapport à des équipes qui vont être les équipes marketing, qui vont être les équipes informatiques, qui sont plutôt en centrale, qui vont après construire les solutions, qui vont évidemment organiser aussi des focus groupes, des focus clients, donc qui vont avoir cette matière-là. Mais il faut prendre le retour de l'ensemble des acteurs parce que c'est ça qui permet vraiment d'être pile au bon endroit dans les optimisations qu'on fait.
Et si je sais pas si ce résumé va vous paraître complètement absurde, mais je veux bien avoir votre avis dessus. En tant qu'aujourd'hui, donc, directrice de la transformation marketing et digitale de la banque de détail, en fait, écouter ces, entre guillemets, doléances ou en tout cas ces feedbacks du terrain et ensuite les prioriser, les hiérarchiser et mettre en œuvre les solutions, si je comprends bien, c'est en fait le cœur de votre mission.
C'est le cœur de la mission quasiment de chacun chacune dans la banque, puisque écouter les clients c'est le nerf de la guerre, écouter les collaborateurs et puis après faire en sorte que nos processus s'améliorent, faire en sorte que nos solutions répondent à ces besoins et faire en sorte aussi qu'on soit de plus en plus rapide time to market, entre guillemets. Il y a quelques années, vous savez, j'ai beaucoup travaillé aussi quand j'étais dans le conseil, de toute façon sur des projets avec, on cadrait les projets, ensuite on faisait des expressions de besoins aux équipes informatiques et puis on développait, on faisait de la recette et puis on délivrait des choses. Bien souvent, il se passait un laps de temps assez conséquent. Aujourd'hui, on est dans des cycles beaucoup plus réduits, avec des dynamiques agiles qui nous permettent finalement de nourrir avec des cycles très courts, des besoins qu'il faut réadapter, des développements très courts, et on est en permanence en train, comme ça, de faire bouger les plaques tectoniques pour délivrer très rapidement et donc être complètement dans les attentes des clients du moment, parce que nos attentes évoluent constamment dans ce monde, évidemment.
Oui, c'est sûr que si jamais on solutionne le problème 6 mois plus tard et que le problème a disparu, bon, ça fonctionne malheureusement pas très bien. C'est la difficulté d'un monde qui est devenu aussi rapide. Est-ce que, Céline, vous pourriez me dire si vous avez une sorte de journée type, une question que je trouve intéressante toujours pour qu'on visualise concrètement, qu'est-ce que ça représente finalement d'être directrice de la transformation et du marketing dans une banque comme la BNP, c'est de savoir en gros à quoi ressemble votre journée concrètement. Et si vous pouvez rentrer dans les détails et m'expliquer à quelle heure vous vous levez le matin, notamment aussi je m'intéresse beaucoup à l'organisation de vie personnelle, professionnelle, je sais que vous avez des enfants, donc en gros comment est-ce que vous arrivez à concilier tout ça, peut-être au travers de l'exemple en fait de votre journée type.
Oui, alors journée type, je suis pas une lève-tôt très tôt, on va dire. Donc je vais me lever à 6h45, 7h. J'ai effectivement 3 enfants et la petite dernière, elle a 3 ans, donc elle guette le moment où je vais me lever. Donc j'ai du mal à me lever discrètement. Donc vous voyez, je démarre comme ça avec les enfants et puis après, alors là, je vais suspendre cette partie confinement où on a un rythme un peu différent et on a des rituels un peu différents, mais globalement on se prépare tous en famille et puis après moi je pars, je travaille boulevard McDonald's dans Paris et donc je vais là-bas. En général, un matin sur 3, comme je passe par Saint-Lazare, j'ai l'occasion de rencontrer soit des personnes d'autres filiales du groupe, soit des anciens collègues, soit des personnes externes pour, par exemple, un petit déjeuner. Et ces échanges-là sont très précieux, en fait, pour se nourrir après dans la journée, dans le travail, dans les réflexions qu'on peut avoir. J'arrive au bureau, alors on est sur des open space, on est tous dans des projets, sur des plateaux, dans des réunions, de plus en plus en visio. Alors là, évidemment, on a un nouveau paradigme avec le Covid. Je déjeune systématiquement avec plein de gens différents, mais en tout cas pour moi le déjeuner c'est sacré et c'est vraiment un moment privilégié pour avoir des discussions, des échanges informels avec un certain nombre de personnes que je vois pas forcément dans mes journées qui sont quand même assez rythmées. Et puis la journée se fait comme ça avec un certain nombre de réunions. Le lundi, on a le comité de direction générale présidé par Marguerite Bérard. Et puis le mercredi, moi j'ai mon collectif, mes managers qu'on se retrouve tous en présentiel et on a un déjeuner d'équipe. Et puis après, chacun part sur ses missions respectives. Et la journée se déroule comme ça. Et il y a quelque chose qui pour moi, ça peut vous paraître anodin mais majeur, c'est que nous dînons dans la famille, nous dînons avec mes enfants tout le temps ensemble. Donc, je rentre toujours pour le dîner maximum. Et puis, si après j'ai des dossiers ou autres, je les reprends par la suite. Mais ce moment-là, il est vraiment important pour qu'on se retrouve et puis qu'on se raconte sa journée finalement. Voilà, une journée type.
Non, mais c'est hyper important de le rappeler. Et je trouve qu'il y a plein d'éléments super intéressants dans ce que vous me dites. Notamment ce choix, parce que finalement, je sais pas si c'est un sacrifice, mais c'est quand même un choix personnel de rentrer un peu plus tôt pour dîner avec ses enfants. Et je peux imaginer que c'est un conseil, en tout cas, c'est quelque chose que vous appliquez à vous-même, qui est, comme vous dites, important à vos yeux et qui est quelque chose. J'ai beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui travaillent beaucoup qui m'ont dit ça. Avoir finalement ce rituel, se forcer à le faire, c'est un moyen, en fait, de s'assurer, en fait, qu'on se discipline aussi un peu, parce que sinon le problème c'est que le travail peut prendre complètement le dessus et ne serait-ce que ce rituel-là en fait fait une énorme différence. Donc au contraire, je trouve ça, enfin je ne permettrai pas de juger en tout cas, mais je trouve que c'est une super habitude, même simple,
Ouais, je crois que chacun a ses propres moteurs. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse individuellement trouver les moments de respiration, d'oxygène, libérer son cerveau, se reposer. Alors, ça peut être en famille, ça peut être d'autres rituels, faire du sport, avoir certaines passions qui occupent. Mais je pense que c'est ça qui fait qu'on est, par ailleurs, quand on est sur des rythmes assez soutenus au travail, que l'on soit entrepreneur ou dans un grand groupe comme BNP Paribas, et ben le plus performant, le plus dynamique, à l'écoute, en forme, quelque part. C'est cet équilibre-là, finalement.
Complètement. Et l'autre point que je trouvais intéressant dans ce que vous me disiez, c'est que j'ai l'impression que vous êtes très attaché au fait de ne pas être dans votre bulle et de rencontrer de nouvelles personnes ou de revoir régulièrement des personnes. Donc toujours, on revient à cette idée de travailler en équipe et en tout cas d'aimer l'autre. Je trouve ça important. Est-ce que vous pourriez, je sais pas si c'est facile à dire, mais me dire qu'est-ce que ça vous apporte et est-ce que c'est juste une ouverture sur le monde? Est-ce que c'est des idées? Est-ce que c'est juste garder une relation avec des personnes que vous appréciez? Pourquoi, en fait, cette volonté, cette nécessité de continuer à avoir de manière très régulière des rendez-vous qui, mine de rien, vous prennent du temps, le matin pour le petit déjeuner, comme vous disiez, et puis ensuite à l'heure du déjeuner?
Je crois que c'est à la fois parce que, évidemment, l'échange est tellement enrichissant. Je crois qu'on est nourri autant qu'on nourrit, que ce soit un ancien collègue, que ce soit un cabinet de conseil avec un manager qu'on a croisé sur sa route à un moment donné, et puis un petit déjeuner, un petit peu d'affaires, entre guillemets, que ce soit... Je vous donne une illustration. J'ai beaucoup échangé et participé à une dynamique de groupe quand j'étais dans la filiale du Crédit Conso, parce que j'étais dans l'association le réseau qui encourageait les femmes à progresser, à échanger, à développer leur confiance. Et on avait notamment du mentoring, on avait des ateliers de développement personnel et on proposait ça au collectif. Et cette capacité à finalement donner, recevoir, échanger, partager les points de vue, accepter aussi le regard de l'autre, le challenge, savoir finalement recevoir ce qu'on nous donne, qui parfois peuvent aussi être des challenges, un peu des critiques ou positives, hein. Mm-hmm. Je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Donc moi, c'est un moteur pour moi et je trouve, le créer des relations dans la durée, je trouve ça formidable. Voilà.
Non, mais simplement, bien sûr. Céline, pour terminer, j'ai toujours quelques questions que j'aime bien poser, que j'appelle le crible du gratin. Vous pouvez y répondre d'ailleurs de manière courte ou longue, c'est à vous de voir, en fonction de votre inspiration. Première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez vécu à un moment donné soit un grand échec ou un moment difficile dont vous pourriez nous parler et surtout les enseignements que vous avez pu en tirer?
Alors, il y a deux choses que je peux vous dire là-dessus de manière assez personnelle. Le premier est assez personnel. J'ai eu deux événements fondateurs, je crois, dans ma vie personnelle, parce que j'ai perdu ma maman assez jeune et ma deuxième fille, parce que j'ai trois enfants, la deuxième est une fille, est née très grande prématurée. Donc, on a eu un parcours à l'hôpital assez compliqué à l'époque. Et en fait, je vous raconte tout ça parce que à l'époque, bon, c'est évidemment des événements très, très compliqués, voire destructeurs, mais avec le recul, qui m'ont vraiment guidée ensuite dans mes choix personnels, professionnels, et qui sont devenus des moteurs, qui m'ont donné un recul sur les choses. Et notamment, ma fille, je me rappelle à l'hôpital, ça a été très marquant pour moi, cette infirmière qui me dit, vous savez, elle était toute petite, hein, elle était encore dans les semaines où elle n'était pas censée être née, qui me disait, vous savez, tous les jours, vous allez nous appeler, la nuit, le jour, vous allez venir, on va vous dire, ça va. Vous prenez ce « ça va » comme un cadeau, vous ne vous projetez pas, vous ne vous demandez pas dans 3 mois ce qui va se passer, ce qui compte c'est le « ça va maintenant » et vous repartez sereine. Et on verra demain la suite. Et je crois que cette phrase-là, ces moments-là sont restés ancrés en moi pour plein d'autres choses dans ma vie. Donc ça m'a vraiment donné une sorte de sérénité, un peu un recul sur les choses qui m'aident vraiment dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, professionnelle. Et puis... si je donnais une autre illustration d'un moment un peu difficile, mais peut-être plus sur le plan professionnel et puis qui est pour moi un enseignement fort. Hein. J'ai eu des situations où finalement, bah, comme tout le monde, hein, parfois j'ai souhaité un job ou une mission qui s'est pas présentée ou ça s'est pas passé comme j'aurais voulu à l'époque. Et je me rappelle notamment d'avoir été voir un manager et lui expliquer à quel point peut-être je pourrais prendre cette position qui était supérieure à celle que j'avais et en quoi je pensais avoir le potentiel pour le faire. Et ce manager avait eu un petit moment de recul et physique, hein, et m'avait dit « mais la marche est vraiment beaucoup trop haute, Céline ». Et ce moment-là, je crois, est un peu fondateur aussi parce que à la fois, ce que j'ai jamais regretté, c'est de dire les choses. C'est au moins, j'avais exprimé ce que je souhaitais. Oui, je l'ai pas eu, c'est pas grave. J'ai aucun regret. Et ça, je trouve ça top de se dire, on n'a pas de regret. Et si les choses se font pas comme on souhaiterait, bah, c'est parce qu'elles devaient pas se faire comme ça. Et puis, le courant repart et il y a d'autres rives un peu plus loin. Et puis, en même temps, ce challenge de se dire, je vais quand même lui démontrer que, on peut aussi miser sur des gens qui rentrent pas complètement dans la case, qu'on peut progresser, qu'on peut prétendre à, et voilà. Donc, en fait, voilà, avec le recul, hein, c'est toujours plus facile, hein. Mais on sort grandi de toutes ces choses qui façonnent notre vie, hein, et je crois qu'il faut surtout pas avoir de regrets. Il faut dire les choses et il faut être confiant et avancer.
Et de manière un peu indiscrète, je vous pose la question, je peux pas m'empêcher, mais quand vous avez eu cette déception professionnelle, vous avez à ce moment-là réagit de quelle manière? Vous avez perdu confiance en vous? Ça vous a donné au contraire l'envie du challenge de lui prouver que si vous étiez capable? Enfin, quelle a été votre réaction? Parce que je pense que des déceptions comme ça, on en vit tous, mais la manière de réagir est très différente et souvent d'ailleurs forge la suite.
Alors, évidemment, un mix, hein, un mix d'être très ébranlé et puis piqué un peu au vif. Quand je dis que moi j'aime discuter, m'entourer, avoir des échanges, finalement, c'est aussi de verbaliser ça, d'en parler avec des alliés, des personnes qui me connaissaient. Ça m'a permis à la fois de digérer, enfin de, et puis aussi de prendre du recul, de me challenger sur ce que je ne voyais peut-être pas forcément moi directement. Et donc c'est le dialogue avec d'autres personnes bienveillantes autour de moi, mais bienveillante ne veut pas dire qu'on se dit pas les choses, qui m'a permis après de passer à autre chose, et puis avec le recul de me dire j'en suis ressortie avec un petit peu ce challenge là, et en même temps sur le coup c'était pas simple et il fallait prendre un peu de recul, et ce recul je l'ai trouvé notamment avec ces échanges, ce dialogue avec des personnes autour de moi ou des amis ou des gens bienveillants qui me donnaient un autre regard quelque part.
Ouais, bien sûr, hyper important. Céline, est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse qui vous plaisent particulièrement, une citation peut-être, et que vous pourriez nous partager?
Alors j'en ai en fait deux qui sont écrites. Vous savez, je suis très digitale pour plein de choses, mais j'ai quand même un petit carnet qui me suit partout, où j'écris tous les ans plein de choses, des petits événements, et j'ai deux citations que il y en a une que je dis beaucoup à mes enfants d'ailleurs. Donc il y en a une qui est de Martin Luther King qui dit « pas besoin de voir tous les escalier, commencer simplement par la première marche. » Et cette idée que finalement, entre guillemets, le parcours, l'audace arrive par petits pas, qu'il faut avancer, puis que les choses naturellement se feront, ne pas voir la montagne tout de suite, je trouve que c'est très, très juste, très vrai, et ça aide aussi à rester serein en toutes circonstances. Et puis, la deuxième maxime, entre guillemets, c'est si ton problème a une solution, alors il ne faut pas t'inquiéter, et si ton problème n'a pas de solution, ça ne sert à rien de t'inquiéter, ou t'inquiéter n'y changera rien quelque part. Et ça, c'est vrai que c'est bien de se le rappeler dans un certain nombre de situations où on est un petit peu le nœud au ventre, on s'inquiète, et finalement, a posteriori, quel dommage d'avoir pris tout ce temps à s'inquiéter. Voilà.
Vous diriez que vous êtes d'un naturel justement comme ça, à vous faire un peu des nœuds, ou vous arrivez justement avec ces maximes, cette expérience et puis cette prise de recul à vous dire non, en fait c'est bon, j'arrive à me libérer de ça, ok.
Je me soigne, je travaille tout ça, effectivement.
c'est un travail en cours. Voilà. Bon, c'est bien, vous êtes humaine comme nous, Céline, ça me fait plaisir. La dernière question que j'aime bien poser, c'est s'il y a un livre ou des livres que vous recommandez autour de vous, ou sinon simplement qui vous ont marqué. Et là, vraiment, n'hésitez pas, ça peut être tout autant de la littérature que des BD, si ça vous chante, pourquoi pas.
Alors, c'est pas une question simple pour moi parce que j'ai pas un livre marquant, mais je vais vous dire, pendant le Covid, comme peut-être pas mal d'entre vous, peut-être vous, Pauline, j'ai trié ma bibliothèque. Et donc, j'ai fait un grand rangement. Alors, je suis retombée sur un livre que j'ai déjà lu 4 ou 5 fois. Et en fait, à chaque fois que je le relis, j'y vois des messages différents. C'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et puis, en fait, donc évidemment, j'ai quelques livres comme ça qui me marquent, je relis. Je lis aussi beaucoup de livres sur le management, la gestion du changement. Et donc, j'en ai retrouvé un que j'avais justement offert à mon équipe il y a 2 ans en pleine transformation digitale qui s'appelait, vous le connaissez peut-être, qui s'appelle Alerte sur la banquise, qui est un grand classique de John Kotter, qui est professeur à Harvard.
Pas du tout. Mais ça m'intéresse beaucoup, du coup. Alerte sur la banquise,
voilà. Et c'est réussir le changement dans n'importe quelle situation. Et c'est une équipe de pingouins qui voit sa banquise en train de fondre drastiquement et qui va devoir gérer ce changement-là. Et c'est une parabole, c'est une fable très, très d'actualité, quelque part, et qu'on peut relire dans plein de situations et dans la transformation d'une entreprise. C'est assez, c'est assez intéressant parce qu'on y retrouve finalement le pragmatique, le curieux, celui qui est plutôt l'ancien, l'intello. Et donc, je vous invite à lire ce livre parce que c'est très fort d'enseignement. Et puis, si je peux terminer sur ce que j'ai sur ma table de nuit, parce que je ne sais pas.
Allez-y.
Je lis évidemment. Alors, j'ai une fille qui adore les bandes dessinées, mais moi aussi, et je lis évidemment les culottés de Pénélope Bagieu. Alors, en fait, je lis beaucoup de livres sur des personnalités inspirantes, mais je suis admirative. Les culottés, c'est ça, c'est l'histoire de ces femmes de l'ombre qui, en fait, ont été des pionnières. Alors, pionnières, résistantes, exploratrices, gynécologues, chamanes et guerrières. Enfin, et en fait, moi, je suis très admirative de ces personnes qui, en fait, sont des héroïnes de l'ordinaire et qui, en fait, ont pas à pas aidé à faire que le monde soit là où il en est aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi ça mes lectures.
Bah c'est, écoutez, c'est super, c'est hyper varié. Et là non plus, je connais de nom les culottés, mais je ne l'ai pas lu. Donc je mettrai tout ça en tout cas dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse les retrouver. Messieurs, dames, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublierai pas. Et Céline, je vous remercie 1000 fois pour votre temps. Je vous remercie pour tous ces partages. Et puis si on veut vous retrouver, Céline, éventuellement vous contacter, je crois que le meilleur moyen de le faire, c'est quoi? C'est votre compte LinkedIn?
Exactement, LinkedIn et Twitter, tout à fait.
D'accord. Et donc là, c'est Céline Ansker, tout simplement.
Ouais, exactement.
Génial. Merci 1000 fois, Céline. Et je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup, Pauline. Au revoir.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Legno, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute, et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.